On va ouvrir la parole, on va aller dans le psaume 37. Psaume 37, à partir du verset 3, j'ai repris le message que j'avais préparé mardi dernier lors des obsèques de ce frère à Istres, que je connaissais très très bien. Je voudrais partager avec vous ce message, qui n'est pas un message d'obsèques, hein, parce que c'était un homme de foi. Et c'est cela que je voudrais que l'on partage un petit peu ensemble. Psaume 37, verset 5, 3, pardon. « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Voilà. Et ça, c'est un message, c'est une annonce, c'est une feuille de route. Confie-toi en l'Éternel, place en lui ta confiance, recommande ton sort et ce faisant, eh bien, la bénédiction de Dieu se manifeste. Ce n'est pas que l'on force la main de Dieu. Mais d'une certaine manière, on se met dans une position qui appelle l'intervention de Dieu, qui appelle la bénédiction de Dieu. Et ça, c'est nous qui le décidons, de nous mettre dans ce positionnement-là, plus ou moins. Parce que la foi, on le sait très bien, vivre par la foi, ça commence un jour, et puis on ne peut que progresser. Et donc, on va vivre plus ou moins, suivant la progression, eh bien, des choses dans la vie spirituelle et dans la vie chrétienne. Confie-toi en l'Éternel, ça signifie dès le départ qu'il nous faut oser faire confiance à Dieu. Alors avec les années, peut-être qu'on s'est un peu habitué, et ça c'est une bonne habitude, d'arriver à faire confiance à Dieu, mais quand on a commencé de le faire, on n'était pas tout à fait à l'aise, parce qu'on ne savait pas, on ne maîtrisait pas, et peut-être même qu'on ne connaissait pas la bonté de Dieu, on ne connaissait pas la fidélité de Dieu, on savait nos situations, ce qu'on demandait, comment Dieu allait répondre, on allait le découvrir. Voilà. Mais la foi, donc, c'est quelque chose qui relève du fait d'oser, et d'oser faire confiance en Dieu. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que l'on affirme, plus on l'expérimente, plus on l'affirme. Voilà. Et quand quelqu'un va parler de la confiance à Dieu à un autre, de la foi à Dieu à un autre, il va en parler d'autant fort qu'il le vit. Qu'il le vit. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Voilà. Nous avons vécu sans Dieu, on sait ce que c'est une vie sans lui. Maintenant, on a découvert la foi, et on sait que Dieu est digne de confiance, et on va pouvoir le dire à ceux qui sont autour de nous, mais vous pouvez faire confiance en Dieu dans les situations que vous traversez. Et nous nous rappelons de ces paroles du Seigneur qui dit qu'il suscite la foi par sa parole, et il l'amène à la perfection. Donc, ce cheminement de la foi n'est pas un cheminement qui va nous mettre en position embarrassante, délicate. Au contraire, c'est un cheminement qui s'affermit avec le temps et qui va vers la perfection. Commencer à faire confiance à Dieu appelle une suite, et cette suite va vers l'affermissement, va vers la perfection. Donc aujourd'hui, on en est, vous et moi, à un certain niveau de notre confiance en Dieu, je suis sûr que ce niveau est perfectible, parce qu'il l'amène vers la perfection. Et nous devons continuer d'avancer, nous devons continuer de progresser. C'est nous qui déterminons à partir de quand on fait confiance à Dieu, à partir de quand on lui présente une situation, et jusque-là, eh bien, on fait par nous-mêmes. Autrement dit, on se débrouille par ses propres moyens. Et puis, à un moment donné, on décide maintenant de prier. Et c'est nous qui décidons quand le curseur, entre zéro, début d'une situation, et la fin d'une situation, le moment où on commence à la présenter à Dieu, à lui faire confiance, c'est nous qui le déterminons. La Bible nous encourage à le faire le plus tôt possible. C'est ce qui est de loin le meilleur. Mais c'est quand même nous qui le déterminons. Ça veut dire que quelqu'un qui aurait commencé une situation sans Dieu, sans lui demander son avis, sans lui présenter la situation, qu'ils ne se sentent pas aujourd'hui mis à l'écart en disant « mais maintenant c'est trop tard, j'ai commencé sans Dieu, ce serait malvenu maintenant de lui venir lui dire « viens de m'aider ». Non, parce que Dieu n'est pas comme ça. Nous avons peut-être commis l'erreur de commencer sans lui, mais aujourd'hui l'erreur ce serait de continuer sans lui. Nous pouvons aujourd'hui venir lui présenter une situation. Peut-être qu'elle est plus compliquée que si on avait fait la démarche plus tôt, ça c'est sûr. Mais puisque nous en entendons parler, puisque nous en sommes conscients, c'est aujourd'hui qu'il faut présenter à Dieu la situation dans laquelle on est et pour laquelle nous voulons qu'il intervienne. Et si nous devons faire mea culpa, pour des décisions prises sans lui, des orientations, etc., eh bien faisons mea culpa, demandons pardon à Dieu. Et il pardonne. Et à partir de là, il intervient dans la situation. Et il fera grâce. Il s'en fait un point d'honneur. Sans quoi, il ne susciterait pas la confiance en lui pour l'amener à la perfection. Donc, puisqu'il la suscite, faisons-lui confiance. Quelle que soit l'étape dans laquelle nous sommes, dans ce que nous vivons. Et puis, nous avons découvert une chose, c'est qu'il y a ce que Dieu dit. Et ce qu'il dit, il le fait. Et ça, c'est extraordinaire. Nous, ce qui nous a fait mal, c'est que des personnes ont dit des choses, ne les ont pas faites. Ou alors, on fait autrement. Mais ce que Dieu dit, il le fait. C'est terrible. Parce qu'on est prévenu. Et un homme averti en vaut deux. Mais c'est bénéfique aussi, parce qu'à partir de là, nous savons que nous pouvons compter sur lui. Quand il a donné sa parole, il ne revient pas en arrière. Il ne se dédie pas, quel que soit le prix à payer. Et ça, c'est un sujet d'encouragement et de confiance en lui. Et il va jusqu'à prendre notre péché. C'est là que l'on mesure la fidélité de Dieu dans 2 Corinthiens 5:21. On peut le lire. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà. Il est fidèle et il va jusque-là. Donc ce n'est pas à nous de déterminer jusqu'où Dieu peut aller dans nos situations parce qu'il va toujours nous dépasser. Il va faire au-delà de ce qu'on demande. Il va aller au-delà de nos attentes. Et parce qu'il est Dieu. Notre part, notre responsabilité, c'est de commencer à lui présenter une situation et à lui faire confiance. Et à partir de là, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même celles qui sont mal engagées. Parce que pour celles qui sont bien engagées, c'est plus facile. Mais elles ne sont peut-être pas si nombreuses que ça. Par contre, celles qui sont mal engagées, là, il y en a beaucoup. Nous faisions partie de ceux qui avaient engagé leur vie sans Dieu. Et même après avoir entendu parler de lui. Et c'est le plus grand nombre, c'est la généralité. Et le Seigneur, conscient des choses, a tout accompli pour que, quelle que soit la personne, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, et quelle que soit la situation, sa parole prime, prévaut. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et parfois, nous on rajoute, Seigneur, tu le dis, mais je suis incapable de dire comment tu vas y arriver. Mais tu le dis. Alors puisque tu le dis, je m'y plie, je me cale dessus, sur ta parole, c'est ma ligne directrice, c'est ma feuille de route. Tu dis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, y compris donc celles qui sont mal engagées. Et que j'ai mal engagé peut-être. Alors je viens te la présenter. C'est à nous de faire cette démarche. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Personne ne nous y forcera, même pas Dieu. Par contre, l'invitation est solennelle, elle est insistante, mais elle n'est pas une contrainte. Et dès qu'on va le faire, Dieu va intervenir. Alors c'est nous qui risquons de limiter Dieu dans notre vie de tous les jours. Moi je l'ai écrit comme ça, on peut limiter Dieu à simplement écouter nos prières quotidiennes, qui sont importantes, mais qui relèvent quand même du quotidien. Voilà, les choses de la vie de tous les jours. Et certains chrétiens, certaines personnes, ont une vie spirituelle avec Dieu, comprenez ce que je veux dire, limitée à ça. Parce qu'elles le limitent elles-mêmes, ces personnes-là, à ça, à cela, leur relation avec Dieu. Alors que Dieu voudrait faire beaucoup plus, désire faire beaucoup plus, mais quelque part, si on ne lui demande pas, il ne le fera pas. Et c'est nous qui risquons de mettre des limites à l'intervention de Dieu dans nos vies. Et parfois, on voit des chrétiens, et quand bien ça aurait pu être nous, si ce n'est nous, avec une vie chrétienne que j'ai qualifiée d'un petit peu banale. Ce n'est pas péjoratif, mais ça veut dire que c'est limité à l'essentiel. Le salut de notre âme, le pardon de nos péchés, c'est essentiel. Et puis la vie de tous les jours, avec ben, Seigneur, merci pour ce que tu me donnes. Je te rends grâce pour le pain quotidien que tu me donnes. Merci de garder ma famille, etc. De me donner du travail, de m'accorder une bonne santé. C'est très sérieux, hein? C'est très sincère, c'est très respectueux. Mais je me dis que c'est un peu banal. C'est un certain niveau. Pourquoi? Pourquoi pas? À partir de la confiance que l'on a à Dieu, ne pas avoir des pics de confiance en lui. Et oser demander des choses beaucoup plus fortes, qui sont importantes. Le salut de certaines personnes de notre famille. Et pas simplement se limiter à dire, Seigneur, permets-moi d'être un bon exemple pour elles. C'est bien. Je crois qu'il faudrait décoller. On veut les gagner, et pas les gagner dans 30 ans. Je ne veux pas, comment dire, mépriser ou être un petit peu péjoratif, mais parfois c'est nous qui n'osons pas aller plus fort, aller plus loin, non pas envers la personne, mais dans la démarche, dans la foi. Voilà. Et dire, Seigneur, je te demande le salut de son âme, montre-moi tout ce que je dois dire ou ne pas dire, tout ce que je dois faire ou ne pas faire. Je veux le salut de son âme. Je ne mets pas d'ultimatum avant le 31 décembre, mais je veux le salut de son âme avant sa mort. Avant 30 ans, je veux le salut de son âme. Voilà. Et c'est à nous de décoller un petit peu notre vie quotidienne que moi j'ai qualifiée banale, mais pas dans le sens péjoratif, dans le sens où on est sur la limite basse, alors qu'il n'y a pas de plafond. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir, il n'y a pas de plafond. C'est nous qui parfois disons, mais je n'ose pas aller jusque-là, à demander à Dieu. Voilà. Et on peut commencer, et je crois que pour commencer à décoller de cette vie chrétienne un petit peu linéaire, eh bien c'est simplement de venir dire, Seigneur, je voudrais connaître ta volonté. Attention quand on dit ça. Attention quand on commence à prier comme cela. On prend le risque d'aller plus haut dans la foi et à un moment donné de rentrer dans le service de Dieu d'une manière ou d'une autre. Parce que là, on va être vraiment serviteur et servante de l'Éternel. Des hommes et des femmes auxquels Dieu va montrer ce qu'il veut, ce qu'il attend, quels sont ses projets, non pas pour dans 50 ans, mais pour aujourd'hui, pour là où nous sommes, dans la ville, dans le quartier où on est. Alors on va simplement lire Romains 12, 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est possible. Mais pour cela, il ne faut pas se conformer au siècle présent, et être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est un projet que Dieu a sur nous, pour nous, nous renouveler dans notre intelligence, c'est-à-dire dans notre compréhension des choses de Dieu en particulier. Ça ne veut pas dire qu'on va être plus capable de résoudre des équations mathématiques, ce n'est pas de l'intelligence intellectuelle dont il est question, mais c'est de l'intelligence de la vie, être capable de comprendre, être capable de prendre des décisions, avoir une vie sage au regard de Dieu. Et ça, c'est... Il y a des personnes qui ont des QI très élevés qui ne savent pas réussir leur vie. Ils ont des vies dans l'autre domaine de la vie, parce qu'il n'y a pas que le domaine des capacités intellectuelles, il y en a d'autres. Dans l'autre domaine de la vie, sont incapables de s'épanouir, ils sont incapables de réussir. Et à l'inverse, vous avez des gens qui sont beaucoup plus simples intellectuellement parlant et qui sont des modèles, qui sont des exemples. Auprès d'eux, on se régale. Dans leur famille, ils réussissent. Ils réussissent leur vie de couple, ils réussissent leur vie de parents, ils réussissent leur vie de famille en général. Et quand ces gens-là, vous les avez dans l'église, c'est une bénédiction parce qu'ils deviennent des modèles, des exemples pour les jeunes, pour les moins jeunes, etc. Et quelle que soit leur capacité professionnelle ou leurs compétences. Finalement, ce sont des domaines séparés. Et c'est très bien qu'ils le soient. Donc nous avons besoin, nous, d'être renouvelés dans notre intelligence. Et c'est expliqué pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ça, c'est un petit challenge, comme on dit. C'est un petit défi dans nos vies d'arriver à trouver cela nous-mêmes. De par nous-mêmes, parce que l'Esprit de Dieu va nous y amener. Voilà. Et on ne sera plus en train de demander l'avis à l'un, à l'autre, le conseil de l'un ou de l'autre. C'est l'inverse qui va se passer, c'est les autres qui vont venir nous demander conseil. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Et là, nous répondrons en ayant pris soin d'abord de consulter Dieu. Seigneur, donne-moi de la sagesse, donne-moi de l'intelligence pour répondre, parce que je ne peux pas donner la même réponse à tout le monde, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas les mêmes situations. Et ce qui s'appliquerait à l'un ne s'applique pas à l'autre. Voilà. C'est du cas par cas. Dieu s'adapte à chacun, et nous aussi. Et nous aussi. On va lire simplement le psaume 39, quelques versets. Psaume 39, versets 5 à 8. Psaume 39, versets 5 à 8. Et ça fait partie du renouvellement de l'intelligence. Rien que le fait de poser la question. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance? Voilà. Mais dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours. Autrement dit, amène-moi à la vérité des choses, à la réalité des choses, afin que je donne la priorité à ce qui doit avoir la première place. Le reste, de toute façon, je ne l'emporterai pas. Alors je veux travailler pour ce que je vais emporter, pour ce qui continuera. Et principalement, je veux donner de l'importance à cela, sans négliger le reste, mais je vais remettre des priorités dans ma vie, dans un autre ordre. Recommandons sera l'Éternel et il agira. Et moi, je l'ai noté comme ça. La confiance en Dieu et la prière donnent le miracle, c'est-à-dire l'intervention de Dieu. Si nous voulons vivre le miracle de Dieu, non pas pour voir des choses, hein, comme les foules voulaient voir des miracles, mais si nous voulons voir l'intervention de Dieu, parce qu'il y a des situations sans l'intervention de Dieu, elles ne bougeront pas. Alors moi, je veux qu'elle bouge, je veux l'intervention de Dieu. Eh bien, il faut que nous prions. Et il faut donc que nous fassions confiance à Dieu. Et il faut les deux. Il faut les deux. Et souvent je l'ai dit, le premier miracle, c'est l'eau changée en vin. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je regarde, c'est que c'est la première fois qu'on lui fait confiance et qu'on l'écoute. Et c'est la première fois qu'il y a un miracle. Et à partir de là, il y en a tellement eu qu'on pourrait... Même si on les écrivait, le monde ne pourrait pas contenir les livres que l'on écrirait. Donc il y a eu une première fois dans nos vies, mais sachez une chose, c'est que la dernière, c'est pas pour demain. Parce que tous les jours, Dieu est celui qui est fidèle et qui veut intervenir. Voilà. Nous savons quel est le premier, la première fois où on lui fait confiance. Nous savons quel est le plus grand miracle. Il ne faut pas se tromper. Le plus grand miracle, ce n'est pas de voir quelqu'un guéri, c'est de voir quelqu'un sauvé. Pas se tromper avec ça. Parce que La guérison, c'est sûr, ça attire les yeux. Le salut de l'âme, c'est ça qui attire le cœur. Et le Seigneur a guéri les gens, mais son aboutissement, c'était le salut de l'âme. Et avec l'exemple de la guérison du paralytique, nous avons tous ce temps d'arrêt que le Seigneur marque en lui disant et en disant à tout le monde, mais le plus important, c'est le salut de son âme. Et maintenant, lève-toi. Mais d'abord, le salut de ton âme. Et pour nous, c'est cela le plus important. Le plus grand miracle, c'est celui-là. Tout le reste, merci Seigneur, mais je ne veux pas dévier de l'objectif, c'est le salut de l'âme. Alors, nous allons demander le salut des âmes. Nous allons demander le baptême de personnes individuelles, de familles. Et mes frères et sœurs, ce que nous demandons, si nous le demandons avec confiance, avec foi, connaissez la suite. Nous le verrons. Nous le verrons. Alors si une personne prie, c'est une chose. Si nous tous rassemblés ce soir, nous prions, ça n'est une autre. Voilà. Alors à nous de savoir ce que nous voulons pour demain, après-demain. Confie-toi en l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Eh bien, on va prier pour que Dieu agisse déjà ce dimanche. Et que ce dimanche, au travers de la prédication, au travers des chants, il y ait des cœurs touchés, d'abord, des vies touchées et des corps touchés ensuite, mais d'abord des cœurs touchés. Et que prochainement, il y ait des baptêmes, des services de baptême. Moi, je n'irai jamais dire à quelqu'un, il faut que tu te fasses baptiser. C'est à chacun de décider, de le demander. On a pu le faire, je l'ai fait en plaisantant, mais pas plus. Il ne faut pas aller plus loin que de la plaisanterie. Parce que on travaillerait à l'envers. Ça doit venir d'une intervention de Dieu par le Saint-Esprit dans le cœur. Voilà. Et comment nous allons amener Dieu à agir par son esprit et toucher les cœurs? Parce qu'on se tient devant lui, on prie, on demande son intervention. Et on va le faire. Donc on va prier pour dimanche, on va prier pour les prochains efforts d'évangélisation qu'il y aura. On va prier pour ceux qui sont venus dernièrement dans ce que l'on a fait au niveau de l'Église. Pour l'instant, on jette le pain à la surface de l'eau. Voilà, on annonce l'Évangile, on ne sait pas, hein, mais on le fait avec confiance, on le fait avec conviction, et nous ne doutons pas que le Seigneur fera son œuvre dans les cœurs d'abord. Amen. Gloire à ton nom. Alléluia. Seigneur, c'est